Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
18h36 sur Europe 1, merci pour votre fidélité et bienvenue, par ailleurs si vous nous rejoignez. Gérald Darmanin est revenu cette semaine sur la suspension de l'expulsion de l'imam radicalisé Hassani Kouissen. Décision du tribunal administratif. Il fait appel, Gérald Darmanin, de cette décision et promet de changer la loi si la justice ne lui donne pas raison. On en débat, on en parle avec mes invités aujourd'hui. Vincent Berger, bonsoir, bienvenue. Avocat en droit international, ancien jurisconsulte à la Cour européenne des droits de l'homme. Patrick Baudouin, bonsoir monsieur, bienvenue.
Bonsoir.
Président de la Ligue des droits de l'homme et deux invités supplémentaires qui vont nous rejoindre par téléphone dans un instant. Émilie Chandler, députée Renaissance du Val-d'Oise et Yann Monzi, fondateur d'Utopia 56. Revenons d'abord sur cette décision du tribunal administratif, si vous le permettez. La grande majorité des gens n'a pas compris cette décision. Est-ce que vous pouvez, Patrick Baudouin, nous l'expliquer ?
Oui, je crois qu'il faut partir d'un texte qui existe, qui figure dans le Code des étrangers et qui permet l'expulsion de personnes qui vivent en France depuis plus de 20 ans sous certaines conditions. Ces conditions, ça peut être par exemple l'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ça peut être le terrorisme, des actes ou des propos terroristes, ou ça peut être la provocation systématique et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes.
Alors on a l'impression
ça,
ici
c'est
que...
Le fondement.
Ça c'est le fondement. On a l'impression que l'imam Kouissen coche quand même des cases.
Alors, il aurait pu cocher des cases.
D'accord.
Je vous rejoindrai. Parce que le fondement qui est invoqué, c'est le dernier. C'est-à-dire la discrimination,
c'est
la
ça.
Haine, la violence. Alors, on lui a reproché, en résumé pour aller vite, on lui a reproché quatre choses. D'avoir tenu des propos antisémites, incontestables, et des propos très graves, et qu'évidemment, vous vous doutez, en tant que président de la Ligue, je condamne absolument. Mais c'est des propos qui remontent à 10 années, qui n'ont pas donné lieu à l'époque à des poursuites, et des propos qu'il dit ensuite avoir regrettés. Ensuite, on dit qu'il ne respecte pas les valeurs républicaines, qu'il aurait préféré que ce soit la charia plutôt. Mais il n'y a pas de preuve absolue. Pour un dossier, ça doit comporter des preuves. Le troisième élément qui était retenu, c'est qu'il aurait tenu, il a dû en tenir, des propos complotistes pour essayer, vous savez, c'est cette rengaine sur les attentats même du 11 novembre à New York, etc. Mais c'est très ancien également. Et le dernier point, plus récent, était des propos tout aussi inadmissibles qui ont été tenus en 2018 sur le sujet de l'égalité homme-femme. Mmh. C'est-à-dire la femme, elle doit être au foyer, elle ne doit pas être inférieure à l'homme, etc. C'était les quatre motifs invoqués dans l'arrêté d'expulsion de M. Darmanin. Or, ce qu'on peut, je ne voudrais pas rentrer dans un débat juridique trop long, mais
c'est très intéressant. Allez-y, Patrick Baudouin.
Ce qu'a soutenu l'avocate de l'imam, que je ne suis pas, hein, il faut bien voir que moi je représente la Ligue des droits de l'homme, la Ligue française des droits de l'homme, et que nous avons considéré que les bases juridiques de cet arrêté d'expulsion n'étaient pas solides. Et c'est ce qu'a retenu le tribunal administratif. Car le tribunal administratif, qui juge en droit, nous dit les propos antisémites, ils ont été reniés, ils remontent quand même à des dates très lointaines. On ne rapporte pas d'éléments suffisants au dossier sur l'atteinte aux valeurs républicaines, sur la charia, sur le complotisme. Le seul point que retient le tribunal administratif, c'est ces propos contraires à l'égalité homme-femme qui ont été tenus il y a 2-3 ans. Mais le tribunal administratif nous dit une mesure d'expulsion, c'est quand même une mesure grave pour quelqu'un qui est né en France,
oui, c'est un
qui
Français.
A toujours vécu en France, qui a été français, qui a perdu la nationalité française à la demande de ses parents, mais il a demandé à la retrouver, ce qui lui a été refusé, mais il a toujours eu ses titres de séjour renouvelés, il n'a jamais été condamné, et donc c'est beaucoup plus tard, on prend cet arrêté d'expulsion. Donc le tribunal administratif nous dit que c'est une mesure disproportionnée par rapport à une autre valeur qui est le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale. Donc le tribunal administratif met en balance, il dit qu'il y a eu des propos évidemment condamnables, mais rien en l'état pour cette personne qui a toujours vécu en France, qui n'a pas tenu récemment de propos qui justifieraient une mesure aussi grave. Mmh. Rien ne justifie donc qu'on prononce un arrêté d'expulsion. Je trouve que c'est une décision assez sage. Il y a un appel, c'est tout à fait légitime, on respecte le droit d'appel,
le Conseil
ça va
d'État
de soi.
Va rendre sa réponse.
Et le Conseil d'État sera amené à statuer. Mmh. Mais je crois qu'il faut bien comprendre, je termine juste là-dessus, que, parce que ça a donné lieu à beaucoup de débats, et je tiens à réaffirmer ici, parce que qu'il n'y a aucune ambiguïté, qu'on n'approuve pas ces propos. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de respecter le droit dans un état de droit. Mmh. Et ces mesures qu'on peut prendre, que le ministre est en droit de prendre, encore faut-il qu'il en justifie et que dans ce rapport entre sécurité et liberté, on ne fasse pas sans cesse pencher le plateau de la balance sur la sécurité au détriment de
la
liberté qui existe.
Vincent Berger, la Cour européenne des droits de l'homme, dont, par ailleurs, vous êtes un ancien jurisconsulte, pour le coup, cette Cour dit quoi ?
Alors, elle dit des choses qui rejoignent tout à fait ce que vient de dire M. Baudouin, c'est-à-dire que la Cour va faire un exercice d'équilibre, de balance, entre d'un côté le droit au respect de la vie privée et familiale, qui est garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'autre côté la protection de l'ordre public, mmh. la lutte contre les discriminations, etc. Et donc là, c'est une situation extrêmement classique et banale pour la Cour, avec ce qui me semble très très curieux dans cette affaire. Et je, à titre personnel, je crois que le dossier du ministère de l'Intérieur est extrêmement mauvais sur le plan juridique.
Pourquoi ? Expliquez-nous.
Parce que dans ce genre de situation, la Cour est confrontée à des étrangers qui ont été condamnés pour des infractions pénales souvent très très graves. Trafic de stupéfiants, meurtre, etc. Et là, la Cour va quand même faire cet exercice. Un Turc, il y a quelques années, avait tué quelqu'un aux Pays-Bas. Il a été expulsé, mmh. alors pourtant il vivait avec une Néerlandaise aux Pays-Bas, il avait un enfant, etc. Mmh. Mais vu la gravité du crime, la Cour a dit non, le droit au respect de la vie privée et familiale de cette personne mmh. ne peut pas l'emporter sur la protection de l'ordre public. Et là, ce qui me paraît extrêmement fragile dans ce dossier précis, c'est qu'il n'y a pas, non seulement pas eu de condamnation pénale, mais il n'y a même pas eu de poursuite. Et même, il y a eu, comme vous l'avez dit, renouvellement de titre de séjour.
Mais pourtant, Vincent Berger, dites-moi messieurs si je me trompe, parce qu'on essaie ici d'y voir plus clair avec tout ce qui a été dit un peu partout, d'accord ? La Cour européenne des droits de l'homme, elle rejette la suspension de l'expulsion. Ça veut dire qu'en réalité, elle autorise l'expulsion. Le rejet de la suspension de l'expulsion, c'est l'autorisation de l'expulsion.
Oui, mais attention, une mesure provisoire à Strasbourg, c'est une mesure fondée sur le règlement de la Cour et pas sur la Convention européenne des droits de l'homme. Et elle dit, la Cour dit dans ce genre de situation, il n'y a pas de risque de dommage irréparable. Par exemple, un étranger va être expulsé vers un pays où il va être torturé ou exécuté. Mmh. Là, le dommage sera irréparable. En l'occurrence, c'est le Maroc, et on peut s'attendre à ce que cet imam ne soit pas torturé et exécuté, etc. Mmh.
Alors, Émilie Chandler, vous êtes députée Renaissance du Val-d'Oise. Une fois qu'on a posé tout cela, Gérald Darmanin, lui, il dit quoi ? Il dit quelque chose de très très simple. Je ferai appel devant le Conseil d'État. Si le Conseil d'État ne me donne pas raison, je m'arrangerai pour changer la loi. Votre point de vue là-dessus ?
Alors, je crois qu'il faut faire un petit peu de pédagogie parce que ce sont des termes très compliqués qui se mélangent. On a d'une part la loi, qui est le texte qui vient réglementer le droit. On a la justice, là, en l'occurrence, le sujet que vous nous proposez, c'est bien celui de la justice, qui est le fait de respecter les règles de la vie en société. Et cette justice, elle vient sanctionner des actes interdits par la loi. Mmh. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même pas oublier que la justice est rendue par des juges. Je fais un petit peu de pédagogie, mais parce que c'est vraiment pour éclaircir la situation. Et ces juges ont une marge de manœuvre. Les juges apprécient la situation in concreto. Et c'est bien ce qui s'est passé dans le cadre de cette décision du tribunal administratif. Ce qu'il faut bien rappeler également, c'est que les décisions du tribunal administratif ne sont pas des décisions du tribunal correctionnel. Vous avez l'ordre répressif qui va venir sanctionner des comportements, les comportements de violence, les comportements délictuels, criminels, contraventionnels. Le tribunal administratif est dans un autre rôle. Donc là, le tribunal administratif, il vient vérifier, donner un avis, rendre une décision sur une décision du ministère, et donc il vient étudier cet équilibre entre ce qui nous a été dit tout à l'heure, les propos condamnables d'un côté, qui datent d'un certain temps pour les propos antisémites complotistes, et puis plus récents pour les propos relatifs à l'égalité homme-femme, et il le met en perspective avec la vie privée. Et donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut analyser cette affaire, c'est qu'on n'est pas devant une juridiction répressive, on est vraiment dans une décision du tribunal administratif qui fera l'objet de recours.
Émilie Chandler, si vous le permettez, revenons à nos moutons. Gérald Darmanin qui dit, encore une fois, si le Conseil d'État ne me donne pas raison, je m'arrangerai pour changer la loi. On est quand même dans quelque chose de plus gros que ce que vous nous expliquez. Je vais être très claire avec vous. Vous soutenez Gérald Darmanin dans son envie de changer la loi. Vous pensez aujourd'hui qu'il faut revoir cette loi, notamment, mettons-nous d'accord, cette loi administrative.
Alors, une loi, on ne la change pas comme ça. Une loi, elle doit forcément donner lieu à discussion. Moi, je suis parlementaire, je suis membre de la commission des lois, donc on ne va pas nous soumettre un texte sur lequel on ne va pas réfléchir et pas essayer de voir quelle est la meilleure option. Moi, je n'ai même pas vu le texte qui pourrait être soumis au vote.
Il n'est pas là encore, hein, ce sera la rentrée.
Donc, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, il faut attendre ce qui nous sera proposé et voir un petit peu quels sont les contours de ce texte. Parce qu'en l'occurrence, on nous annonce un texte. Aujourd'hui, la situation, c'est celle-ci. On nous annonce un texte, on ne l'a pas encore vu.
Patrick Baudouin, elle n'est pas sacralisée, la loi dans ce pays, la France.
Je pense que je voudrais revenir un instant sur votre question parce qu'elle me paraît quand même extrêmement importante et je ne suis pas convaincu qu'on ait entendu la réponse. Effectivement, comme ça a été dit, on est dans un cadre administratif. Mmh. C'est devant le tribunal administratif, donc c'est une procédure parfaitement classique où il y a la contestation d'un arrêté, en l'espèce un arrêté d'expulsion qui est pris par le ministre. On demande d'abord la suspension de l'exécution de cet arrêté. C'est ce que vient de faire en référé le juge du tribunal administratif et qui a statué dans le sens que j'ai rappelé tout à l'heure. Il y a un appel devant le Conseil d'État. Je pense que c'est le ministre qui fait appel. Je pense qu'il aurait été décent, pour ma part c'est la position que j'adopte, alors que la Ligue des droits de l'homme était intervenante volontaire devant le tribunal administratif, d'attendre la décision du Conseil d'État d'une façon respectueuse par rapport à la justice qui effectivement est chargée d'appliquer la loi, de l'interpréter. Or, M. Darmanin, qui n'a pas été très bon joueur, je pense, après la décision du tribunal administratif, s'empresse de dire sur les médias qu'il allait, changer la loi si effectivement le Conseil d'État ne lui donnait pas satisfaction, et deux, qui s'empresse de dire « ce monsieur n'a pas sa place sur le territoire français ». Peut-être que ce sera le cas si la juridiction administrative finalement estime qu'il faut l'expulser. Je regretterais beaucoup cette décision, mais ce serait la décision des juges.
Vous regretteriez, Patrick Baudouin, c'est important de le dire, vous regretteriez cette décision parce qu'elle ne respecterait pas la loi plus qu'en soutien à ce monsieur?
Non, c'est un cas, si vous voulez. Il faut être clair, ce n'est pas un cas évident. Ouais. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je continue de penser que cet arrêté d'expulsion n'est pas conforme, si vous voulez, à l'application de la loi telle qu'elle existe, qui est une loi qui permet au ministre de prononcer des mesures d'expulsion. Et j'ajoute simplement, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais quand M. Darmanin nous dit... Dans ce cas-là, une nouvelle loi. Mais c'est absurde. On est depuis 1980, je reprenais le compte là, on est à 20 lois successives sur ces questions. Ça ne change rien. Mmh. On va vers toujours plus de répression. Mmh. C'est un peu, si vous voulez, vis-à-vis de l'opinion publique, on veut montrer ses muses, je m'excuse, mais c'est largement cela. C'est largement cela, c'est la communication. Or, la loi, elle contient tout ce qu'il faut pour évidemment préserver la sécurité des Français. Car il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas s'occuper de sécurité, que ce soit en matière terroriste ou tout autre domaine. Mais il faut concilier sécurité et liberté et pas continuellement renier les libertés, renier les règles de l'état de droit au nom d'une sécurité qui finalement appauvrit le débat et qui fait peur aux citoyens, qui se dit heureusement qu'on a des lois. Or, la loi ne suffit pas. C'est toute une politique qu'il faut mener qui doit être à notre sens différente.
Yann Manzi, vous êtes aussi avec nous, fondateur d'Utopia 56. Yann, est-ce que, d'après vous, ce que fait ici le ministre de l'Intérieur, c'est un gigantesque coup de communication? La sécurité, elle prime sur la liberté?
La réalité de... Moi, ce que je peux vous dire, alors je ne suis pas un spécialiste, bien sûr, du droit, mais...
Vous êtes sur le terrain.
Je suis sur le terrain, et ce que je peux constater depuis des années, que ce soit bien sûr sous le quinquennat Macron, le premier ou le deuxième, ou le quinquennat Hollande, ce qu'on voit, nous, c'est le non-respect de la loi, de gouvernement successif en gouvernement successif, sur la répression qui serait ciblée sur des populations bien précises. Et bien sûr, ce coup de com' de M. Darmanin, ce gouvernement nous a prouvé qu'il était très doué en communication. Dans la réalité, ce qu'il fait derrière, c'est bien sûr, et nous le constatons tous les jours, le non-respect des droits humains, que ce soit des enfants. On le vit à Calais sur les interdictions de pouvoir nourrir des gens, pouvoir... On est vraiment dans quelque chose où il nous reste que le droit, sauf que l'État, aujourd'hui fort d'une communication incroyable, va pouvoir faire croire à son peuple tout ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, bien sûr, pour faire la course derrière le Front National, on va encore durcir les choses. La réalité, c'est que c'est derrière, ce n'est pas des numéros, c'est des êtres humains qui vivent l'enfer depuis des années sur notre sol, que ce soit bien sûr nos amis algériens, tunisiens, espagnols. Le non-respect des droits pour les populations étrangères est un fait. Et c'est tout simplement M. Darmanin qui continue cette politique de non-accueil que la France a décidée. Il nous reste la loi, battons-nous pour la faire respecter. C'est tout ce que nous avons à faire.
Merci beaucoup Yann Monzi, on vous libère parce qu'on sait que vous êtes en festival et c'était important pour nous de vous entendre aujourd'hui parce que vous êtes sur le terrain. On pourra parler tout autant que l'on veut quand on est sur le terrain, on sait au plus près ce qu'il en est. Vincent Berger, il y a quelque chose qui me fait tiquer quand on entend par exemple à l'instant Yann Monzi qui dit « Il n'y a que la loi qu'il nous reste, il n'y a que la loi ».
Il n'y a pas que la loi évidemment, heureusement il y a aussi la justice, on vient d'en parler. Il y a aussi toutes ces associations de défense des droits et des libertés. Tout ça est extrêmement important. Et la France, à cet égard, est un pays quand même extrêmement, j'allais dire, productif. Ça n'a rien de péjoratif, mais où il y a une très grande vitalité des associations. Je ne suis pas sur le terrain. Je suis sur le terrain juridique ou judiciaire, mais je ne serai pas aussi pessimiste que
Yann Monzi. Voilà. Vous parliez à l'instant de jurisprudence. Est-ce que vous pouvez en partager avec nous, par exemple, un fait, un cas d'école en particulier sur cette jurisprudence, sur les lois qui prévalent de toute façon, sur la justice qui s'applique?
Non, ce qui est très clair, c'est que la France, comme tous ses partenaires européens, a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme.
Ouais.
Et donc, ce qui est une convention, qui est un traité international, qui a une valeur supérieure à la loi ordinaire française et qui, par conséquent, oblige les autorités françaises. Et si cette loi Darmanin, 21e loi peut-être depuis 80, entre en vigueur et va être discutée, elle devra nécessairement tenir compte des exigences de la jurisprudence de la CEDH à Strasbourg. Il faut aussi préciser, moi j'entends souvent dans le débat public, des jours où nous sommes en France, les pieds et poings liés par l'Union européenne, par la Convention européenne des droits de l'homme. Tout ça me paraît franchement très excessif. La Cour, elle laisse beaucoup de liberté, la Cour européenne des droits de l'homme, elle laisse beaucoup de liberté aux États. Et j'ai parlé tout à l'heure de cet exemple de ce Turc qui a commis un crime aux Pays-Bas et qui ensuite a été renvoyé en Turquie. Et donc, il ne faut pas s'imaginer que les États sont comme des gullivers empêtrés par des tas de nains qui seraient justement tous les pro-européens, entre guillemets. Non, ce n'est pas du tout la situation, en tout cas telle que moi je la vois, même si je ne suis pas comme à Calais sur le terrain.
Émilie Chandler, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, que vous êtes députée Renaissance du Val-d'Oise. Yann Monzi, le fondateur d'Utopia, est intervenu à l'instant. Le non-respect des lois pour la population, ça ne peut pas continuer, c'est ce qu'il a dit. La loi dans ce pays ne s'applique pas de la même façon que l'on soit français ou étranger. Voulez-vous répondre à cela ?
Alors, je partage pas tout à fait cet avis. Lui, il est sur le terrain. Il a des retours dans son spectre d'action par rapport à son association. Et forcément, il a peut-être.
Ah, Émilie Chandler, on vous entend mal. Il va falloir peut-être que vous bougiez sur la gauche ou sur la droite. À vous de décider.
Voilà, je reste au centre.
C'est pas mal ça.
Et donc, Monsieur Bondy est sur le terrain, donc il a un spectre visuel de dire on s'en prend plus aux étrangers, si c'est ce que j'ai bien compris. En réalité, les instructions sont les mêmes pour tous. à partir du moment où il y a une infraction, parce que c'était l'exemple qui était donné, une infraction qui existe et qui est constatée, le fait d'être étranger ne va pas forcément donner lieu à un traitement différent. Et heureusement, la loi s'applique de la même manière à tout le monde. Et vous pouvez reprendre tous les textes, il n'y a pas de différence, en tout cas pour tout ce qui concerne le code pénal. On ne fait pas de distinguo et heureusement, la France est quand même le pays des droits de l'homme. Donc on est quand même sur quelque chose de qui s'applique à tous. Voilà.
On arrive sur la dernière ligne droite de ce débat. Merci par ailleurs à tous pour la qualité de cet échange parce que vous nous permettez de mieux comprendre tout ça. Ça peut paraître obscur, la loi, nul n'est censé l'ignorer. Et pourtant, nous sommes une grande majorité à ne pas bien la connaître. Patrick Baudouin, est-ce que la sécurité doit primer sur la liberté ?
Non, je crois qu'il faut concilier, encore une fois, et c'est parfaitement possible dans une démocratie, la sécurité avec la liberté. Quand je vois quand même le projet tel qu'il est annoncé par M. Darmanin, parce que j'ai vu aussi qu'il retardait la période d'examen et l'échéance sur l'immigration, mais quand il prévoit, par exemple, quand il revendique la double peine, il la revendique. Est-ce que c'est normal? Je viens d'entendre qu'on ne traiterait pas différemment les étrangers des Français. C'est faux. Si vous avez quelqu'un qui vit en France depuis toujours, bon, il est de nationalité étrangère. Certains, donc moi qui d'ailleurs la nationalité française, mais admettons qu'il soit resté de nationalité étrangère. Il va être condamné, il va accomplir une peine, mais en double peine, on va l'expulser. C'est donc bien une mesure tout à fait discriminatoire. Et quand M. Darmanin nous dit aussi que pour ce qui est de l'aide au séjour, il va, j'entendais ces personnes admirables qui sont sur les terrains, vous l'avez dit tout à l'heure, à Calais et ailleurs, et qui savent les conditions de vie épouvantables que vivent certaines personnes étrangères. Eh bien, quand M. Darmanin nous dit qu'il va criminaliser l'aide au séjour, alors certes, il a raison d'essayer de poursuivre les passeurs, ça c'est bien sûr. Mais il y a plein de gens qui font de l'aide aux étrangers. Alors, est-ce qu'on va les rendre criminels parce qu'ils vont avoir abrité quelqu'un qui sera aussi... Je veux dire, c'est une façon de fustiger, si vous voulez, toujours les autres. Et je crois que c'est regrettable. Et je pense qu'il faut cesser d'être sur cette logique pour qu'effectivement, comme vous l'avez indiqué, on concilie les libertés avec la sécurité.
Merci à tous d'avoir répondu à ce débat aujourd'hui. Émilie Chandler, députée Renaissance du Val-d'Oise, Vincent Berger, avocat en droit international, ancien consul de la Cour européenne des droits de l'homme, Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme en France, et Yann Manzi, fondateur d'Utopia. À suivre, que fait l'État français? C'est ce que se demande Sébastien Raoult, incarcéré depuis des mois au Maroc. Son père sera avec nous, à tout à l'heure.